État de splendeur pour cette émission du 11 août 2010. Aujourd'hui, on a le droit à une relativement courte émission, mais quoique intéressante, on a plusieurs sujets pour vous et puis ça va commencer par une brève intrusion dans le Manicouagan. Et ensuite, on va parler du nouveau développement dans le secteur des produits du terroir et des produits régionaux au Québec. C'est quand même des assez bonnes nouvelles. On va faire un bref survol de ça. Et on va encore réentamer les deux chroniques récurrentes à cette émission, soit la vie monastique au Québec et la chronique fantomatique qui explore un aspect défunt de la culture du Québec. Vous venez d'entendre de Orange A de Donaka Costello qui assure toutes les introductions et les indicatifs de cette émission. Et puis, sans plus tarder, on va commencer l'émission et nous allons la commencer après cette brève introduction musicale avec un groupe franco-allemand qui s'appelle Stéréo Total, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà. Et ça va être la musique automatique qui va initier cette émission. Donc, c'est une courte émission aujourd'hui, mais qui va être condensée, et puis il restera une autre émission avant la fin de cette semaine. Donc, bon début de l'émission, et voici la musique automatique avec Stéréo Total. Thank you.
musique automatique, de l'automate à musique. Si tu presses ce bouton, voilà le morceau démonstration.
De ma bouche à mon micro, de mon micro à l'ampli, de l'ampli à la sono, de la sono à ton oreille. La musique
automatique,
la musique
barbiturique,
la musique
énigmatique,
la musique
romantique. Mon automate, une machine extrêmement sophistiquée, te joue une petite musique très compliquée.
De ma bouche à mon micro, de mon micro à l'ampli, de l'ampli à la sono, de la sono à ton oreille, de ma bouche à ton oreille, de ton oreille à ton cerveau, de ton cerveau à mon antenne télépathique. Tic, tic,
tic.
La musique
automatique,
la musique
excentrique,
la musique
euphorique,
la musique
héroïque.
Et c'était la musique automatique avec Stéréo Total, groupe franco-allemand. Et on va débuter cette émission en parlant du Manicouagan. Le Manicouagan, c'est une région qui est nommée d'après le réservoir Manicouagan et le barrage Manicouagan. C'est une région administrative, mais c'est un peu particulier parce que le nom des régions administratives change tout le temps. Alors, ils ont comme pas le temps de s'insérer dans le tissu social et devenir des habitudes de longue date, là. On a vu avec l'Estrie, qui s'appelait l'Estrie officiellement il y a quelque temps, ben, il y a peut-être, je sais pas, 25 ans, j'imagine. Et puis, ça a été rechangé au canton de l'Est à cause d'une décision du gouvernement. Mais en réalité, en anglais, ça s'appelle évidemment The Eastern Townships, en honneur du fait que ça ne s'est pas fait aménager en rang comme le système français, mais bien plutôt en canton, comme le système anglais, vu que c'est les loyalistes qui ont quand même colonisé cet endroit à leur manière. Mais en français, on était devenu habitué à l'expression « estrie ». Et puis, il semble l'avoir enlevé, mais la population a quand même resté... Mais le nom de l'Estrie a collé à cette région, on peut le voir avec le carrefour de l'Estrie à Sherbrooke, etc. Et donc, sans doute que le nom Estrie va coller, mais les décisions administratives tendent à un peu rendre le jeu un peu flou. La même chose existe en Côte-Nord. La Côte-Nord a été renommée la région Manicouagan. Et puis, c'est un très beau nom, évidemment, Manicouagan en tant que tel, mais la chose, c'est que c'est une région qui s'appelle la Côte-Nord depuis plus d'un siècle maintenant. Et puis, c'est un peu dommage de changer le nom maintenant. En fait, c'est parce que c'est une région tellement large, la région administrative de la Côte-Nord. Je veux dire, ça monte jusqu'à Schefferville, techniquement. Et puis, c'est une région tellement large qu'on veut faire référence non seulement à la côte, mais bien aussi à... On veut faire référence au territoire intérieur et donc au réservoir Manicouagan et tout ce qui l'entoure. Et puis, c'est peut-être un peu déconnecté de la réalité parce que le territoire... que représente aujourd'hui le Manicouagan, il est beaucoup trop gros. Là. Il faudrait faire une autre sous-région qui représente le territoire intérieur et puis que la Côte-Nord reste la Côte-Nord. Puisque la Côte-Nord, en tant que telle qu'on la connaît, est déjà divisée en Haute-Côte-Nord, Moyenne-Côte-Nord et Basse-Côte-Nord. La Haute-Côte-Nord étant la portion qui commence à Tadoussac et puis la Basse-Côte-Nord et puis est la zone qui dépasse la rivière Natashquan. la moyenne étant tout ce qu'il y a entre les deux. En fait, l'intérieur des terres de la région de Manicouagan, ça serait probablement plus approprié, quoique évidemment c'est en mon humble opinion, là, ça serait probablement plus approprié de l'appeler le Nitassinan, qui, elle, correspond à une réalité du terrain qui est là depuis des siècles et des siècles. Là. Parce que le Nitassinan, en fait, ça c'est le nom traditionnel du territoire des Innus. Et puis ce territoire-là, ben ça, je pense que ça veut dire notre terre. Autrefois, évidemment, il se rendait jusqu'au lac Saint-Jean, et puis il faisait tout le Labrador, il se rendrait presque jusqu'à Schefferville, il englobait toute la côte nord. Évidemment, aujourd'hui, on ne pourrait pas stipuler que le Nitassinan comprend ce territoire-là, mais d'honorer ce territoire-là en appelant la portion intérieure du territoire de la Côte-Nord ou de Manicouagan ou de Duplessis, comme on veut l'appeler, je pense que ce serait très, très honorable pour répéter le mot. Donc, cette région-là devrait peut-être s'appeler le Nitassinan, mais pour l'instant, c'est le Manicouagan. Et puis, il y a peu de chances que ça change administrativement, mais il faudrait quand même y référer de la sorte, là, le Nitassinan. En fait, le Manicouagan, ça comprend... il y a Baie-Comeau. À partir de Baie-Comeau, on peut prendre une autoroute qui rentre dans les terres, qui passe par les barrages Manic, le réservoir Manicouagan, et donc l'île Levasseur. Et puis, on passe par une zone assez intéressante, mais très peu développée. Là. Mais dans le coin de l'île René Levasseur, il s'est passé quelque chose... En 2004, on se rappelle qu'il y a une forêt très ancienne à l'île René-Levasseur. L'île René-Levasseur, c'est ce qu'il y a dans le milieu du réservoir Manicouagan. Si vous regardez une carte du Québec, c'est un peu ce qui ressemble à un œil. C'est un réservoir circulaire avec dans le milieu une gigantesque île. Et puis cette île-là bénéficie d'une forêt très, 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 très ancienne. Et puis la compagnie Kruger voulait la couper. Il y a eu des protestations contre ça. Je ne me rappelle pas de comment cette histoire s'est terminée exactement, mais j'ose espérer que ça, ils ont trouvé une certaine entente. Mais c'est ça, c'est à part l'exploitation minière et hydroélectrique, il n'y a pas beaucoup d'activité économique qui se fait. On a trouvé un exemple assez intéressant d'une activité économique qui, bien qu'elle soit à petite échelle, est très prometteuse, mais il s'agit en fait d'une compagnie qui est plutôt sur la côte nord. Mais étant donné qu'on appelle ça administrativement le Manicouagan, on va en parler aujourd'hui. Vous voyez, c'est un peu mélangeant tous ces changements de nom administratifs. En fait, on parle d'un village qui est sur la berge du Saint-Laurent. Et c'est juste avant Baie-Comeau, c'est Pointe-aux-Outardes. Et puis, à Pointe-aux-Outardes, il y a un gisement d'argile qui a des propriétés vraiment intéressantes au niveau cosmétique. Et on a commencé à exploiter ce gisement-là et en faire toutes sortes de différents produits. Et puis, c'est que juste avant Baie-Comeau, récemment, il y a eu $1 million qui a été donné par le gouvernement pour justement sauver cet endroit-là, la berge qui bénéficie de certaines propriétés minéralogiques intéressantes. C'est un lieu où... y a la mer qui se mêle aux rivières et aux tourbières, et ça crée à la longue une espèce de sédimentation qui fait un argile qui a des très bonnes propriétés. Donc, il y a une compagnie qui a commencé à l'exploiter. Et puis, cette compagnie-là, l'argile marine, a commencé à faire des produits comme la boue marine, la poudre d'argile et puis la pierre d'argile. C'est des produits qu'on a déjà entendu parler dans la balnéothérapie. Souvent, en fait, il y a des bains de boue et tout ça. Mais c'est que cette boue-là a vraiment des particularités uniques. Et puis donc, on a commencé à offrir la possibilité pour que les gens viennent sur place et puis se fassent certaines thérapies avec cette argile-là. Mais on a aussi commencé à l'exporter. Donc, cette compagnie-là a commencé à faire productions de ces cosmétiques eux-mêmes. Et puis, maintenant, on peut retrouver dans des endroits comme le marché des saveurs du Québec ou dans différentes boutiques à travers le Québec, la boue marine, et puis pour se faire des masques. Et puis, la pierre d'argile, une pierre qu'on peut chauffer, qui peut, en fait, même... être bon pour le dos, puis calmer certaines douleurs arthritiques. Et de fil en aiguille, la compagnie a évolué, puis maintenant, ils sont réalisés qu'ils peuvent vendre leurs ingrédients à des compagnies cosmétiques vraiment de réputation internationale. Et c'est là que le volume d'exportation devient plus important. Et puis, cette compagnie-là a pris son envol et vraiment devient un chef de file dans son domaine. Et on tenait à souligner cet exemple-là parce que c'est vraiment une belle histoire d'avant-garde pour mettre en valeur les ressources du territoire et pas seulement de manière alimentaire, parce qu'on ne parle pas seulement de produits agroalimentaires ici à l'émission, mais bien de toutes sortes de façons de mettre en valeur les ressources qu'on a ici. Donc, c'était un petit chapeau à cette compagnie-là. Mais c'est évidemment pas la seule chose que vous pouvez visiter dans cette zone-là. Mais il s'agit d'un village côtier, là. C'est Pointe aux Outardes, juste avant Baie-Comeau. Mais si vous voulez, on peut comparer ça à ce qui se passe dans le Manicouagan réel, là, autour du barrage Manicouagan. Et ça demeure une zone encore un peu sous-développée. Non pas qu'il faille construire des gigantesques édifices ou quoi que ce soit, mais c'est que si vous prenez la route de Baie-Comeau pour vous rendre jusqu'à Fermont, vous vous rendrez compte qu'on peut visiter le barrage hydroélectrique et puis éventuellement, avec un peu de témérité, visiter l'île René Levasseur, qui est très, très, très belle. Mais sinon, si on continue, on passe par l'ancien village rasé de Gagnon, dont on a parlé dans une chronique fantomatique récemment. Et puis après, on se rend à Fermont. Fermont qui est intéressant, mais ça reste un village minier, là, à part le village lui-même, il n'y a pas d'attraction particulière. On sait que le village est construit de manière à ce que... Ils ont fait un gigantesque... Ils appellent ça le mur, là. C'est un édifice où la grosse majorité des gens peuvent habiter. Il y a tous les commerces qui sont là. Et c'est fait pour un peu empêcher les grands vents du nord qui viennent souvent balayer l'endroit. Donc, c'est une construction un peu particulière, on peut visiter ça, mais disons qu'il reste encore beaucoup de potentiel non exploité dans le Manicouagan ou dans ce qu'on appelle le Nitassinan. Donc, c'est un peu difficile à développer, évidemment, parce qu'on ne peut pas s'installer de manière spontanée sur le bord de la route et acheter une terre et puis partir un commerce, là, c'est pas réaliste. Mais tout ça pour dire qu'il reste encore tout à faire dans ce qu'on appelle le Nitassinan. En contrepartie, pourtant, la Côte-Nord commence à bien se développer. Et puis, on peut le voir à travers des compagnies comme l'Argile de mer à Pointe-aux-Outardes. Et puis, c'est un chapeau à cette compagnie-là. Et j'espère qu'ils vont trouver toujours des moyens plus efficaces pour mettre en valeur leurs ressources. On va aller en break musical tout de suite avec une pièce d'un groupe qui s'appelle Beirut. On va écouter Postcards from Italy.
The times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, were not all bad. We put our features where they had to.
Those who
C'était Beirut avec la pièce Postcards from Italy. Donc, le prochain sujet, c'est qu'il y a des nouveaux développements dans le domaine des produits du terroir au Québec. C'est une très bonne nouvelle, en fait. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement dans les réglementations gouvernementales pour l'accession des différents producteurs qui font des produits qui sont intéressants, qui méritent d'être protégés, à la nouvelle étiquette IGP. IGP qui veut dire Indication Géographique Protégée. Ça a été un peu calqué sur le système de protection des produits du terroir qu'on peut retrouver en Europe. Il y en a plusieurs. Celui le plus connu, c'est probablement le système des INAO. INAO, l'Institut national des appellations d'origine. Et puis, vous pouvez le voir sur tous les vins français là, qui sont vraiment certifiés comme étant des appellations d'origine contrôlée. C'est qu'un vin qui est produit, par exemple, dans les Côtes de Nuit, va être entièrement produit dans les Côtes de Nuit avec des raisins qui proviennent du domaine où est embouteillé le vin. Et puis, ce système-là est fort favorable pour les consommateurs comme pour les producteurs parce que ça assure aux producteurs d'être certains qu'il s'agit effectivement d'un vin qui vient de cette région-là, voire de ce terroir-là. Et puis, ça assure à la population d'être... aux vendeurs d'être certains qu'un espèce de vendeur de vin frauduleux ne pourra pas vendre sa camelote en disant qu'il s'agit d'un vin de Côte de Nuit parce qu'il ne sera pas certifié. Donc, ce système-là n'existait pas au Québec jusqu'à tout récemment. Et puis, donc ils ont décidé de mettre sur pied un système et puis c'est les IGP, Indication Géographique Protégée. Et puis, ce système-là est géré par un organisme au Québec qui vient juste de changer parce que la réglementation était un petit peu trop stricte là, pour que ça soit réaliste. Maintenant, c'est le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants qui gère ce système, le CARTV. Et puis, il y a eu une nouvelle réglementation parce qu'en 10 ans d'existence des IGP, il y a seulement l'agneau de Charlevoix qui a été certifié et dont on est certain qu'il peut bénéficier d'une protection au niveau international et que personne d'autre peut vendre son agneau en disant que c'est de l'agneau de Charlevoix sans répondre à certains critères précis, là, géographiques et puis d'alimentation de l'animal. Tout un cahier de charges est élaboré. Sauf que le processus était un petit peu trop ardu. La preuve, c'est qu'il y a une seule production qui est certifiée aujourd'hui, l'agneau de Charlevoix. Avant, on devait se conformer à une réglementation déjà 100% définie, qui définissait les critères. Aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation, c'est en théorie le domaine agroalimentaire lui-même qui décide. Donc, tout ce qui a un caractère unique reflétant son terroir peut être éligible aux IGP. Par exemple, production de bovins nourris avec du fourrage local ou du miel de bleuetière peut être éligible. Et puis auparavant, c'était un petit peu trop ardu d'espérer que ça puisse être éligible. Il y avait trop de critères sévères. Et puis maintenant, c'est le domaine agroalimentaire qui va décider lui-même. Donc la porte s'en trouve, mais le processus administratif reste quand même le même, là. C'est juste que maintenant, il y a beaucoup plus de méthodes ou de productions qui sont éligibles, comme disons que quelqu'un a une méthode de production spéciale, comme le fumage de son produit ou autre. Là, il peut faire une demande lui-même s'il juge lui-même qu'il est méritant de cette certification. Évidemment, c'est dommage parce que les petits producteurs ne pourront pas encore bénéficier tout de suite de l'IGP parce que c'est un processus administratif qui nécessite quand même un gros volume. Mais c'est quand même c'est parce que c'est un pan de marché, les produits du terroir au Québec, qui n'est pas encore tout à fait développé. On peut voir qu'en Europe, avec l'INAO et puis les appellations d'origine contrôlée, il y a un gros volume qui est vendu international de vin, qui est vendu internationalement. Dans le domaine du vin, il y a beaucoup de produits qui sont certifiés. On le voit dans le vin, mais on le voit aussi dans d'autres produits comme le fromage, le morbier fermier, le brie de melun, le comté. eux bénéficient tous d'un rayonnement international et puis d'un volume de vente international qui justifie de passer par un gros processus administratif. Mais ici, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent aspirer à un tel volume et donc justifier toute une procédure administrative coûteuse là, pour accéder aux IGP. Donc ça veut dire que il y en a certains qui peuvent accéder, mais c'est pas un... Il y en a certains qui ne pourront pas. Sauf que c'est quand même une bonne chose d'entamer le processus parce que ça fait de sorte que les rares qui vont pouvoir avoir accès à l'indication géographique protégée vont contribuer à la rayonnance des produits du terroir au Québec et vont faire de sorte que la production au Québec va avoir acquéri une réputation de qualité. Et donc, le volume va augmenter et puis tout ce pan de marché-là va se développer. Donc, les petits qui n'ont pas encore accès à cette certification-là vont éventuellement pouvoir y avoir accès étant donné que ça augmente la rayonnance totale de la production régionale typée au Québec. Alors, on a vu que tantôt, des produits comme les miels de bleuetière pourront être éligibles à l'IGP, et puis tout ce qui reflète une certaine particularité de son terroir. Mais si on prend, par exemple, il y a un producteur de miel qui fait un miel qui est assez unique, c'est-à-dire le miel de tilleul qu'on trouve souvent en Europe. Mais le miel de tilleul est assez rare au Québec, même en Amérique du Nord. Il y a un producteur non loin de Saint-Hyacinthe qui s'appelle M. Gosselin, qui lui a planté des tilleuls sur un territoire de manière stratégique et puis il y a des ruches et il a réussi à faire du miel de tilleul. Ça, c'est un des seuls miels de tilleul qu'on peut retrouver au Québec, mais c'est une toute petite production. Donc, le volume de vente ne justifiera jamais d'aller chercher une IGP. Alors, ce produit-là, même s'il est super authentique, sera pas certifié par l'IGP. Mais rien n'empêche à cette production-là, en attendant que la rayonnance internationale de nos produits grandisse, de se doter d'autres moyens pour protéger sa production et la certifier. Et en fait, même s'il lui a pas accès, c'est quand même une bonne nouvelle pour lui que les IGP ont ouvert un peu plus la porte à un plus grand nombre de producteurs. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle et on tenait à tirer un chapeau au gouvernement pour cette ouverture d'esprit pour les IGP. C'est une bonne nouvelle, donc. Et puis, si vous voulez voir la réglementation nouvelle des IGP, vous pouvez aller sur le site etatdusplendeur.com. Dans le blog, il y a un lien pour retrouver le texte exact de la réglementation. On va aller tout de suite retrouver d'autres musiques avec le groupe américain qui est un duo qui s'appelle MGMT, qui est un acronyme pour Management, et puis c'est la pièce Electric Feel. c'était Electric Feel avec MGMT. Donc, on retrouve une autre chronique récurrente ici à l'émission État de splendeur, c'est la vie monastique au Québec, où on explore régulièrement différents monastères à travers le Québec. Ça avait commencé avec juste une brève exposition de différents monastères au Québec, mais on s'est rendu compte qu'il y en a tellement que... Bon, pourquoi pas en faire une chronique récurrente? La semaine passée, on a vu le monastère d'Oka, qui n'est plus en fait le monastère d'Oka, qui est maintenant un monastère qui a déménagé à Saint-Jean-de-Mata, qui s'appelle le monastère Val-Notre-Dame. Et aujourd'hui, on avait décidé de faire des reportages sur non seulement les monastères masculins, mais les couvents aussi. Mais on a trouvé une curiosité... En fait, c'est moi qui l'ai trouvé. Il s'agit d'un monastère tibétain. Donc, c'est carrément d'un autre registre. Et il fallait simplement souligner son existence parce qu'il s'agit d'un monastère tibétain dans un coin où on ne pourrait pas le soupçonner. Là. C'est en fait un coin assez reculé. C'est le monastère bouddhiste tibétain de... C'est le monastère bouddhiste tibétain de Saguenay. Et donc, il est à Chicoutimi. C'est assez surprenant de voir qu'on peut retrouver un monastère bouddhiste à Chicoutimi, mais à ma grande surprise, il y en a un. Et c'est le monastère Gelugpa. Et puis, c'est tiré de la tradition issue du monastère Kompo Gander Yangtze à Mundod. Qui vient dans le sud de l'Inde. Donc la plupart des traditions tibétaines viennent plutôt du nord, en frontière avec le Tibet, mais celle-ci vient de l'Inde du sud. Et puis c'est le lama Lobsang Samten qui le dirige, un moine exilé, j'espère, qui s'y plaît bien à Chicoutimi. Et puis on trouve plusieurs activités dans ce monastère-là. Évidemment, c'est un monastère assez récent et relativement petit, donc qui bénéficie de ressources assez limitées, mais ils ont plusieurs activités. Et puis je tenais à souligner l'existence de ce monastère-là. Donc il y a des activités telles le Tara, le Chenrezig et puis le Guru Funjanus, que je sais pas en fait quelles sont ces activités-là, mais je tenais à les énumérer quand même. Ils font beaucoup de retraites souvent, et puis j'imagine qu'ils profitent du fait qu'il y a du territoire exceptionnellement large pour faire leur retraite, et ils donnent des cours de tibétain, des cours de langue, et régulièrement font des voyages initiatiques en Inde et aussi au Népal, accompagnés de moines. Donc, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce monastère, vous pouvez appeler au 418-687-5189. Donc, c'était ça pour le monastère tibétain de Saguenay, qui en fait s'appelle techniquement le monastère tibétain de Chicoutimi, mais étant donné qu'il y a eu une fusion, je l'appelle le monastère de Saguenay. Et donc, je tenais à tirer mon chapeau parce que ça prend quand même pas mal de témérité. Donc, salut bien au lama Lobsang Samten. On va retourner en musique immédiatement avec une pièce qui est à propos, une pièce des Beastie Boys des années 90. C'est Shambhala, issu d'ailleurs du folklore tibétain.
The Lord, the Lord.
donc Shambhala des Beastie Boys, parti sur, passé sur l'album Ill Communication. Donc le dernier sujet de la journée, c'est à mon avis le sujet le plus intéressant. Je garde souvent le plus intéressant pour la fin. Il s'agit de la chronique fantomatique. Et puis en cette journée du 11 août, on va explorer quel fantôme? Le wapiti. Le wapiti qui est un animal, un animal ongulé cervidé. Et puis le wapiti, vous me direz, pourtant c'est pas un fantôme, il existe toujours, mais il y a une partie qui est fantomatique. En fait, le wapiti, c'est le deuxième plus grand cervidé au monde, après l'orignal. Et puis ça ressemble un peu, c'est un peu comme l'orignal a sa contrepartie européenne, l'élan, et puis le bison a sa contrepartie européenne aussi. Et on a longtemps cru que la contrepartie européenne, qui s'appelle le cerf élaf, on a longtemps cru que c'était la même espèce, que c'était juste une sous-espèce, le wapiti. Mais depuis 2004, on a fait une analyse de l'ADN et puis on s'est rendu compte que c'est vraiment une espèce distincte. Il mange ici depuis la dernière glaciation des plantes et puis des feuilles et des écorces, surtout des nourritures de cet ordre-là. Et puis, donc, ça fait très longtemps qu'il est ici. Son nom est issu de l'algonquin, qui veut dire croupe blanche, parce qu'en arrière du wapiti, sa croupe est blanche. Et le reste de son poil est plutôt foncé, de couleur qui varie du rouge ocre jusqu'à presque noir. Auparavant, on retrouvait le wapiti admari ou skadmari, c'est-à-dire dans toute l'Amérique du Nord. Et puis, voici la partie fantomatique du wapiti, c'est qu'aujourd'hui, au Québec, il n'en reste absolument plus. Nada. Absolument plus. Il restait quelques wapitis jusqu'au 19e siècle, mais maintenant il n'y en reste plus. Il y avait auparavant 6 espèces en Amérique du Nord du wapiti, mais aujourd'hui, celle qui parcourait le Québec, le wapiti de l'Est, connu son nom latin c'est Cervus canadensis, est complètement éteint. C'est très triste. Donc, sur 6 espèces ou sous-espèces de wapiti, il en demeure seulement 4. Et même dans les 4, il y en a qui sont, pour ainsi dire, quasi non-existants. Il y a le wapiti toulé, le wapiti manitoba. Je ne vous les énumérerai pas tous. Mais il y a certaines sous-espèces qui ont été gardées vivantes, mais bien qu'on ne les retrouve plus vraiment sur le territoire. C'est pour des fins de réintroduction, parce qu'on en conserve encore quelques spécimens et on espère pouvoir les réintroduire. Malheureusement, pour l'espèce Cervus canadensis, c'est un peu trop tard. Les prédateurs naturels de wapiti, c'est les ours bruns, les ours noirs même, les coyotes et les loups. Donc, il y a quand même des prédateurs naturels du wapiti qui subsistent encore au Québec. Mais à partir de 1835, la répartition du wapiti est terminée là, au Québec. Là. En fait, à l'est du Manitoba, on ne trouve plus de wapiti là, depuis à peu près 1835. Ça, c'est à cause de la compétition qu'il y a eu avec d'autres cervidés. Notamment, on soupçonne grandement le cerf de Virginie qui est vraiment envahissant. Là. On ne sait pas si c'est relié à des changements climatiques ou autres, mais il y en a de plus en plus. On peut voir que c'est un exemple du caractère envahissant du cerf de Virginie, c'est l'île d'Anticosti, où il y avait, on avait déjà exploré l'île d'Anticosti dans la chronique fantomatique qui parlait du château Meynier, à Port-Meynier sur l'île d'Anticosti, château de bois qui a été incendié, malheureusement qui n'existe plus. Mais ce Henri Meynier a introduit à peu près 220 cerfs de Virginie sur l'île d'Anticosti. Et aujourd'hui, il y en a à peu près 200 000. Et puis, ça a quasiment éteint la race autochtone des cervidés qu'on trouvait sur cette île. Il y a beaucoup de compétition pour le wapiti. C'est pour ça qu'il est parti. Il y a des utilisations économiques pour le wapiti. C'est un peu bizarre de dire que utilisation économique pour une espèce vivante, mais quand même, on connaît tous les annonces vie de velours. Et puis ça, c'est à cause du velours qui recouvre les bois du wapiti. Depuis bien longtemps, la réputation d'avoir des propriétés tonifiantes. En fait, en Asie, on leur donne beaucoup plus de propriétés que ça, mais c'est raisonnable de dire que le velours de wapiti a quand même au moins des propriétés tonifiantes. Et puis souvent, on l'élève, pas exclusivement pour ça évidemment, avant tout on l'élève pour sa viande, et puis j'imagine pour son poil, mais le velours de bois de wapiti est de grande valeur aussi. Donc il existe des raisons pour qu'on en élève. Et puis, par conséquent, c'est possible peut-être de le réintroduire. Et en effet, on va voir qu'il y a certains élevages qui existent, surtout sur la rive sud du Québec, mais il y en a aussi sur la rive nord. Et puis, le Québec est un territoire vraiment prometteur. Donc, s'il y aurait des élevages qui se donnaient pour mission de réintroduire le wapiti, évidemment, en concordance avec les autorités et puis les biologistes qui pourraient étudier la meilleure manière pour le réintroduire, ça serait une bonne idée, puisqu'il reste encore des prédateurs naturels du wapiti, et puis il pourrait toujours avoir la base d'élevage et puis régulièrement être réintroduit. Parce que évidemment, ça va être un long processus parce qu'il y a beaucoup de cerfs de Virginie à l'extérieur, mais s'il concentre la chasse sur le cerf de Virginie, ça pourrait peut-être favoriser la réintroduction du wapiti au Québec. Évidemment, il faudrait faire attention parce qu'il y a d'autres espèces qui sont vraiment fragiles, qui précieuses, qu'il ne faudrait pas enlever, dont le fameux caribou des bois. C'est un des caribous qui descend le plus au sud dans le Québec. On en retrouve notamment dans la région de Charlevoix, puisqu'il y a des régions plus élevées dans Charlevoix qui ressemblent un peu à la toundra, la taïga. Et le caribou des bois, il ne faudrait pas introduire le wapiti au même endroit parce que ça rentrerait en compétition. Mais il y a certains endroits qui pourraient être cernés pour que certains éleveurs puissent les élever, exploiter leur viande et puis vivre économiquement, mais en même temps, avec leur surplus de production, les lâcher en liberté et les réintroduire. Moi, je trouve que ce serait peut-être une bonne idée. C'est peut-être pas réaliste de dire que ça va se faire demain, mais je pense que le fantôme du wapiti va un jour pouvoir se ressusciter. Je le souhaite du moins. Alors, c'était ça pour saluer le wapiti, pour dire au revoir au Cervus canadensis canadensis, et puis dire bonjour peut-être à une nouvelle espèce de wapiti qui va pouvoir parcourir nos terres avec grande joie et prospérité, je l'espère. Justement, en parlant de parcourir des terres, on va terminer cette émission avec une pièce qui s'appelle Roam, qui veut dire justement parcourir les terres. Un groupe qui s'appelle les B-52s. Je vous remercie d'avoir écouté. Vous avez été avec Patrick Gassikian et je vous dis à la prochaine. Sur ce, voici B-52s et Roam.